Libre Alfortville. Si on veut, on peut. Un atelier d'écriture radiophonique proposé par la compagnie Esvray dans le cadre du laboratoire intergénérationnel des bâtisseurs et rêveurs d'école, une investigation fleuve de 2 ans sur des territoires multiples pour interroger l'école, celle d'avant, d'aujourd'hui, mais surtout celle de demain. En septembre et octobre 2023, Stéphane Choucroune a rencontré les éducatrices et éducateurs des associations Espoir, ACA, SLIC et de la mission locale. Il a dialogué avec des jeunes du quartier des Alouettes et du quartier Chantraine d'Alfortville. Avec Baptiste Fèvre, ils ont animé un stage au Théâtre Studio d'Alfortville du 23 octobre au 2 novembre.
Salut Baptiste, c'est Stéphane Choucroune. Écoute, tu peux me rappeler, j'aimerais te parler d'un projet, enfin c'est un atelier qu'on pourrait faire au Théâtre Studio d'Alfortville dans le cadre voilà, de la série de projets, enfin l'atelier qu'on fait pour préparer la création de notre école Tragicomédie. Et donc on fait plein de podcasts, des perfs et tout ça, et là ça serait un podcast qu'on devrait faire avec des décrocheurs de la ville d'Alfortville. Le mieux, c'est que... Bah, rappelle-moi, et puis comme ça, on en parle. Je t'embrasse, j'espère que tu vas bien. Ciao.
C'est moi, Baptiste. Je me suis formé à l'École supérieure d'art dramatique de Paris. C'est là que j'ai rencontré Stéphane. J'ai écouté le message de Stéphane, je me suis dit pourquoi pas. Sortir du théâtre, rencontrer des jeunes de banlieue parisienne, écouter, recueillir leurs paroles, être attentif aux mots, aux signes, être sur le terrain, faire des connexions... Une partie de moi rêve encore d'être sociologue, c'est pour ça que j'ai accepté. J'ai pas grandi à Paris, j'ai grandi à Saint-Cel-et-Rouvray, dans le Morvan, en Bourgogne, un petit village d'une centaine d'habitants. Presque toute ma famille est encore là-bas, sauf moi. Là-bas, pas de théâtre, pas de cinéma, pas de café, pas de MJC. Mais il y a un club de foot, à La Roche-en-Brenil, et un maxi-marché à 3 km. Et des vaches... Des charolaises. Et des céréales. Ça, c'était la vue depuis ma chambre d'enfant. Un champ et des vaches. 1h30 de bus jusqu'à Dijon, 2h40 de TER jusqu'à la gare de Lyon et après la ligne 8 jusqu'à Alfortville. Ça me laisse le temps pour cogiter. Comment je me retrouve à faire ça? Jouer dans des spectacles, animer des ateliers? Mes perspectives d'avenir auraient pu se résumer à l'usine où mes parents ont travaillé. Ou alors être prof, j'étais bon à l'école. J'arrive dans le quartier du théâtre. Le boulevard, les petites maisons, plutôt quartier résidentiel. Les grands ensembles que j'avais vus à la télé en photo. Le béton des banlieues. Quel impact ça a vraiment sur les gens? Je m'installe dans le bar du théâtre. Ambiance Brooklyn, mur décrépit retravaillé, béton ciré, grande table en bois brut, un peu de métal... On dirait l'usine, mais pas vraiment. Je m'installe. Stéphane est déjà là avec l'enregistreur. Le zoom. Au bout d'une demi-heure, 2 ados arrivent.
C'est une idée que genre, j'ai eue depuis super longtemps. Comme genre, j'ai vu que je pouvais aller en seconde générale. Du coup, je me suis dit que je vais commencer par un CAP. Après, je vais partir en bac technologique ST2S. Et après, partir en BTS ABM, analyse biologie médicale. Et après, pourquoi je finis une étude de médecine?
J'ai eu une année de 3e très compliquée, j'ai eu des problèmes personnels. C'est-à-dire que j'allais pas beaucoup en cours. C'est-à-dire que c'était pour une générale, c'était mort. Une pro, c'était les limites. Et moi, je voulais faire une alternance en petite enfance. Et vu que j'étais trop jeune et qu'on m'a mal orientée, on m'a dit que c'était possible à 15 ans alors que non. Vu que je suis une fin d'année, elle m'a dit oui, t'inquiète pas. À la fin de l'année, c'est possible, tu pourras faire ton alternance. C'est-à-dire que moi, j'ai cherché toute l'année. Fin de compte, j'ai rien eu. On me faisait que de me refuser. Et elle m'a dit, en juillet, elle a appelé ma mère pour lui dire, oui, on n'a pas de lycée pour Charlize. J'ai pas vu qu'elle avait pas l'âge. Donc, bah, elle a pas de lycée pour la rentrée. C'est-à-dire que du coup, septembre, début septembre, j'avais rien. Et la mère, elle s'est vénère un peu parce que son but à la conservation, c'est de m'orienter et de la fin de l'année d'avoir un lycée. Mais là, elle m'a orienté dans un truc où je pouvais pas le faire. Et dès le début, elle savait. Donc la mère, elle s'est un peu énervée vu qu'elle lui a dit à la fin, comment on fait du coup pour Charlize? Ma mère, elle m'a dit, bah, c'est votre boulot, genre. C'est pas le mien.
La conseillère d'orientation. Je me souviens même pas en avoir vu au collège. Moi, seulement avoir rempli un questionnaire, et selon le nombre de ronds, de triangles ou de carrés, tu étais censé y voir plus clair. Si je me souviens bien, moi j'étais dans la case découverte et entraide. On me conseillait de trouver un travail qui me permette de voyager et de rencontrer des gens. Travailler dans une ONG, par exemple, ou quelque chose du genre. Et puis, il y a eu madame... Merde, j'ai oublié son nom. Ma prof de français au collège François Pompon. En troisième, elle m'a dit « Tu aimes lire, tu as de l'imagination, tu devrais faire un bac littéraire. Bon, tu as écrit crétin au lieu de chrétien. Mais ça, c'est pas des vraies fautes, hein, c'est juste des fautes d'attention. » Tu devrais t'inscrire à l'option théâtre du lycée de Semur. C'est ton lycée de secteur. Le théâtre ? Moi ? Je suis super timide. Je pourrais pas. Je pourrais dire non. Ne pas y aller. Mais j'ai pas osé. Et après tout, pourquoi pas ?
Si t'es capable de le faire, je pourrais le faire. Si t'es pas capable de le faire, faut laisser tomber.
Non, en vrai, même pas. C'est si tu veux vraiment réussir dans une matière ou dans un métier, tu vas te donner à fond pour le faire.
C'est ça.
C'est si tu veux pas, enfin, si tu veux pas cette matière, t'aimes pas ou autre, ça va pas te donner du tout une envie de le faire, ça va pas te donner une envie.
Exact.
Lui, vas-y, je vais travailler, j'ai mes devoirs. Alors que si c'est une matière que t'aimes, tu vas te donner à fond, tu vas te dire oui, ça, je vais faire ça. Je vais trouver ceci. Pour un métier, c'est pareil. Pour ce métier-là, je vais faire ça. Alors, je me donne à fond pour le faire, je vais m'informer par rapport à ça, etc. Plein de choses. Donc, oui, si tu veux le faire, tu peux le faire aussi.
Tu peux habiter au grand ensemble, tu peux devenir ce que tu veux. Tu peux habiter aux Alouettes, tu peux devenir ce que tu veux.
Ouais,
tu...
n'importe où, quoi.
Tu peux habiter à la Marne, tu peux devenir ce que tu veux.
C'est à toi de vraiment, c'est à la personne de savoir ce qu'elle veut faire et pas s'en faire influencer. Exactement. Parce que la plupart des gens en vrai, qui habitent dans des cités, ils sont plus influencés par leurs amis. Vas-y, viens, on fait ça. Vas-y, on fait pas ça, on s'en fout des cours, on va faire là. Alors qu'en vrai, tu te fais pas influencer, tu peux aller très haut. Si t'en as envie, quoi.
Tu peux devenir ce que tu veux, peu importe où t'habites.
On peut, si on veut. On peut, si on veut. Vraiment. Alors, on veut. On peut. Mais oui, on peut. Parce qu'on veut. On veut vraiment. Il faut le vouloir. Le pouvoir. Le super pouvoir. Quand tu super veux, tu super peux. Avec Stéphane, on va super y croire. On va le faire, ce podcast. Mais pour l'instant, on attend encore Charlie Zelika. On va attendre longtemps, hein. Elles reviendront pas. Dès le deuxième jour, elles sont plus là. C'est dommage parce qu'avec Lika, on devait faire un chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre à elle. Lika, elle est en lycée pro et maintenant, en lycée pro, il doit faire des chefs-d'œuvre. Comme chez les compagnons, les ouvriers de France. Passer d'un coup du statut d'apprenti à celui de maître. Ça peut faire peur. C'est peut-être pour ça qu'elles sont pas revenues.
Et ouais, nous, en fait, ce qu'on se demandait, c'est... je sais pas si t'as des éléments de réponse, mais... Pourquoi ?
Pourquoi ils sont pas là ?
Ouais. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils ont pas envie, en fait ? Enfin...
Honnêtement, je sais pas. Après, moi, quand je suis arrivé, on m'a toujours prévenu que du coup, les motiver sur une tâche ou sur un truc, c'était compliqué. Vraiment, fallait y aller mollo. Et surtout, fallait le faire... Fallait pas se sentir frustré quand le projet venait de nous. Quand le projet vient d'eux, on travaille avec ce qui nous amène. Et des fois, ils nous disent qu'ils ont un projet, on veut aller escalader une montagne, ok. Mais en fait, ils vont jamais l'escalader, la montagne. Nous, on va les accompagner dans l'élaboration de ce projet-là. Et en fait, c'est pendant l'élaboration du projet qu'on aura de la matière pour travailler avec eux. C'est ce qu'ils vont nous amener pendant cette élaboration-là. Des éléments de leur famille, où ils en sont dans leur parcours scolaire, professionnel, quels sont leurs projets. C'est des choses qu'on va avoir, on aura ces informations-là pendant l'élaboration du projet. C'est ça qu'on va travailler au final. Mais la montagne, on sait qu'ils ne vont jamais la gravir. Ils n'y vont jamais. Mais ça arrive que quand eux, ils emmènent un projet, ça arrive qu'ils se motivent à aller jusqu'au bout. Enfin, tout se fait avec eux. Donc si on voit qu'ils ne sont pas motivés, qu'il y en a deux qui ne viennent pas, etc., on dit hop, 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 on repousse. Jusqu'à ce que vous soyez motivés, et qu'on voit que vous êtes régulier dans les rendez-vous.
Mais le fait de sortir de leur zone de confort, pourtant deux alouettes à notre local, il n'y a pas très très grosse distance, c'était compliqué pour eux.
Et on s'est posé la question de est-ce que c'était pas aussi ça. Et quand tu te rends compte que concrètement, il y a un paquet d'étapes avant d'arriver au rêve, tu...
T'as tendance peut-être à baisser les bras ou... Oui, ouais.
Quel rêve ils ont aussi quand ils grandissent là et... Je sais pas, est-ce que c'est des choses dont ils vous font part de...
Nous, on a même des jeunes qui nous disent... clairement, j'ai pas d'ambition. Et moi, ça m'inquiète. Je préfère autant accompagner un jeune qui va dans tous les sens, qui a 36 000 projets, même s'il va pas au bout des projets. Je me dis, bon, ok, mais au moins qu'il y a ça, il cherche constamment à vouloir s'en sortir, qu'un jeune quand même de 15 ans qui me dit, j'ai pas de rêve.
Et c'est quelque chose que nous, on retrouve dans pas mal d'endroits, dans les classes et tout ça, souvent, des jeunes qui n'arrivent plus à y aller.
À se motiver. Ouais.
Comment on fait ?
La discipline, elle est compliquée. La motivation, la détermination, c'est très, très, très compliqué. Surtout pour ces jeunes-là qui sont un peu isolés des institutions, qui sont parfois déscolarisés. Donc même, ils savent plus ce que c'est de mettre un réveil et de se lever pour un but le matin.
Qu'est-ce qu'il faut faire ?
On va dans les quartiers, on tient des permanences. Et même quand on tient des permanences, ils ne viennent pas.
Mais vous montrez que vous êtes là, quoi.
Ouais. Ouais. On le fait parce qu'on se dit... On a envie d'être là pour eux et de se sentir utile aussi. Et on se dit, si on le fait pas, qui va le faire, quoi. C'est un secteur qui est en manque de professionnels. Même dans notre équipe, ça se ressent, on n'est même pas au complet. Dans notre asso, on a 9 équipes de prévention dans le Val-de-Marne, sur 9 villes différentes. Il y a des équipes où il y a 2 éducateurs, pour un territoire de 200 000 personnes.
Peut-être que je serais plus utile ici, avec eux. Il manque d'éducateurs spécialisés. J'ai posé la question à Stéphane. À quoi ça sert le théâtre ? À qui ça sert ? Qui vient au théâtre ?U'est-ce qu'on y fait ? Des chefs-d'œuvre ? Il faut du temps pour faire un chef-d'œuvre, pour parvenir à quelque chose. Il faut être là, faut de l'énergie, de l'envie, du travail au quotidien. On peut... Si on veut. Lika ? Lika ? Charlize ? Vous vouliez pas ? On aurait pu.
Moi, l'école normale, c'est pas pour moi. Moi, j'arrive pas à l'école.
Moi,
ça fait que j'arrive pas. C'est pour ça que je me suis fait virer, justement. En seconde, ils m'ont viré de l'établissement et en première aussi.
Pourquoi ?
Parce que je venais pas, j'arrive pas à suivre l'école. Du coup, là, j'ai pas envie de rester sans rien faire. J'ai plus de lycée, du coup, c'est pour ça que je m'inscris là-bas.
Ça sert à quoi que je vais faire un bac plus 5, c'est pour me retrouver dans le même endroit que des gens pas scolarisés. Même endroit. Et je suis même mieux que je suis chef d'équipe.
À l'école, moi, j'ai juste appris à être assidu, concentré.
En fait, ils nous donnent des règles plus tard.
Voilà, des règles. Règles de vie, en gros.
Oui, les règles de vie. Ouais.
Moi, je trouve que tout ce qu'ils nous font faire, par exemple, je trouve que ça sert un peu à rien.
Ça
sert un peu à rien, parce que dans la vie de tous les jours, tu peux te débrouiller.
Et aussi, au collège, ils nous orientent mal.
Ouais.
Et en fait, par rapport à notre comportement ou notre travail qu'on fournit en classe, ils vont nous envoyer en pro, en CAP. Et c'est bien CAP, mais il y en a, ils ont largement le niveau pour la générale, mais ils nous disent non.
Ouais, ils décident ici.
En fait, ils décident de notre avenir. Et à cause d'eux, peut-être, il y en a, ils ont leur avenir gâché.
Faut le vouloir, hein, les gars, si c'est ça, hein, faut le vouloir, faut aller chercher. Hein. Y a rien qui vient chez nous, hein. Faut y aller. Faut y aller, si tu vas pas, ça viendra pas. Hein. Faut y aller, faut travailler, faut se donner les moyens. Et celui qui se donne les moyens, sincèrement, il y arrive. Sincèrement. C'est vrai, hein. Études, pas études, ça aide dans les études, c'est vrai, mais...
Si tu vas pas trop, tu vas trouver.
Nous, on est prêts à te le prouver, hein. En allant avec toi, moi je suis prêt à aller avec toi, démarcher, frapper chez les patrons, je peux le faire ça avec toi.
Si on veut, on peut.
Pas tous avec les mêmes capacités.
Ça, c'est vrai, ça.
Les avantages au départ.
Ouais, c'est ça.
Il y a beaucoup de discrimination aussi. C'est difficile en ce moment de trouver un travail. Quand, par exemple, quand t'es un noir, par exemple, ça peut être plus difficile qu'un blanc qui vient de Paris, famille aisée et tout, c'est difficile. Hein.
C'est beaucoup de contacts de nos jours. Moi, par exemple, je travaille à l'aéroport.
Ah, moi, j'ai déjà postulé à l'aéroport, moi. On m'a jamais appelé. Moi, c'est mon oncle qui m'a fait rentrer.
Donc, c'est le réseau. Là, c'est familial.
Toi, tout ce que tu fais, c'est le réseau.
Je suis d'accord avec toi.
Par exemple, là, je veux changer de truc. Je vais à l'aéroport, mais je veux changer de truc. C'est pas aussi simple que quand il m'a fait rentrer. Moi, quand il m'a fait rentrer, j'ai envoyé mon CV aujourd'hui. Le lendemain, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, t'as un entretien aujourd'hui. C'est que les contacts de nos jours dans tout ce que tu fais.
Et du coup, là-dessus, est-ce qu'on est égalitaires, tous? Est-ce qu'on a tous le même réseau?
Non.
Dans le Morvan, il n'y a pas de réseau. Je suis obligé de monter sur une colline ou dans un arbre pour capter. Il n'y a pas la 4G, il n'y a pas la fibre. C'est la zone. On appelle ça la zone blanche.
C'est si tu veux, tu peux. Ils n'ont que ça en tête. Si tu veux, tu peux.
Oui, mais ça, c'est des formules magiques. Magic Johnson, hein, c'est-à-dire qu'il voit, Tony Parker, il voit le machin, il voit les influenceurs, il voit les influenceuses, il voit TikTok, ils ont l'impression que oui, si tu veux, tu peux, mais non. C'est si tu as fait, tu as une chance de. Et une chance de. Bah, c'est pas spontané, là, le succès ni la réussite. C'est le réflexe. Alors après, il est pas mal ça, ce réflexe. Il est tiré d'une envie de reconnaissance, il est tiré d'une envie d'y avoir droit, cette part de rêve de ce monde. Sauf qu'il ne rêve pas du bon oeil et qu'il se laisse embourber dans des passions, envie de succès, de réussite, de représentation de soi, où ça doit être le maxi qui est la valeur tip-top. Et tout ce qui est à milieu... Oh, puis alors, si tu es un tout petit peu en bas, mais que tu fais l'effort, parce qu'on n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous la même capacité, tu sais, comment il s'appelait, là, notre Usain Bolt, il est le premier, mais celui qui est le dixième, il fait quand même un record, hein, parce qu'il est dixième sur des millions de gens qui courent. C'est bien de tendre la main à celui ou une perche à celui qui se noie. Mais c'est bien aussi, encore une fois, et je te le répète, de tendre et de rajouter une marche à celui qui réussit, pour qui l'étape suivante, ce serait un succès, mais à qui il manque ce coup de main, ce truc, parce qu'il n'a pas les réseaux, parce qu'il n'a pas la famille qui peut l'accompagner, parce que dans son travail, où il s'acharne avec des éléments qui sont contraires, des vents contraires, lui, il s'acharne à faire mieux, bien, et il ne se laisse pas influencer ni par en bas, ni par ses potes, ni par son temps, ni par l'appétit, de l'appétence des smartphones et du machin, je t'en fume la gueule et je vais fumer un joint. Il bosse, il ou elle, hein, parce que... Et elle se retrouve... pour avoir un stage, faire une alternance, c'est la merde, la misère et le fracas qui lui tombe sur la gueule. Ça bloque. Et là, pour ces jeunes-là, il n'y a pas grand monde.
Fin de journée. On va rentrer après la discussion avec Nordine. On a enfilé nos manteaux. On n'attend plus que la jeunesse arrive, on n'attend plus personne. Mais ça sonne à la porte du théâtre studio. C'est Mathilde. Elle a 21 ans, elle vient de La Réunion, de l'île de La Réunion. Enfin, pas vraiment directement de l'île de La Réunion, mais...
Assise sur une fenêtre, je dessine un jardin. Je plante un cyprès, un hêtre, entre un plot et un engin. Je crée un parc, là où le bitume règne. Je tends des rosiers sur un arc, dans une allée, quelques châtaignes. Je rêve d'aménager des prairies, là où les enfants s'épanouissent. J'ai fini par planter quelques arbres dans Paris, là où les fleurs s'évanouissent. Les jeunes pousses rêvent de voir le ciel, mais elles sont sous une terrasse, là où le riche, dans sa maison résidentielle, a sa porte ouverte, la clim on et se prélasse. Prends un avion, voyage au-delà des océans, toque à la porte du futur. Libère-toi, trouve un appartement, découvre-toi, ta vraie nature. Tout est très excitant, apprendre de nouvelles choses, rencontrer des gens, mais il y a cet écart d'identité, à la quête d'un semblant de communauté. Ton français est bon, mais quelle ironie. Le métro, trop facile, mais je ne viens pas d'ici. Vous dites de gentilles choses, mais dans votre cœur, vous me jugez. Mon manque de confort et mes doutes, la différence et le stress me coûtent. Je me suis un peu noyée, pas pu rester en classe, car je ne me sentais pas à ma place. 2 ans après, je suis toujours là, à la recherche d'un lieu à appeler chez moi. Pas à pas, j'irai mieux. On m'entendra parmi eux. Je crierai mon existence et ma passion. Je serai moi-même dans mes créations.
On est content. On est sauvé. Il suffisait qu'une personne vienne. Revienne. Mathilde, elle est sortie de chez elle. Elle s'est déplacée. Il suffirait peut-être juste de ça. Sortir. La stagnation. Quand on a grandi en face d'une mare, on sait que l'eau stagnante, c'est jamais bon. Il faut aller voir les sources vives, aller grimper les massifs rocheux, aller voir ailleurs comment ça pousse. Comment ça se passe pas forcément comme on se l'imagine. Comment c'est pas forcément la violence des cités, comment c'est pas forcément la rudesse et la bêtise des campagnes. Comment c'est juste de l'inconnu.
Le public féminin, c'est quand même un public où il y a encore beaucoup d'enjeux sur les quartiers. Elles sont encore sous la surveillance des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, des parents, voilà. Elles sont encore l'objet de beaucoup d'enjeux sur les quartiers. Nous, les jeunes filles qu'on voit qui, j'ai envie de dire, se libèrent de ça, c'est les filles qui souvent sortent du quartier. Elles vont s'installer ailleurs. En fait, il faut voir le quartier comme un petit village où, en fait, tout le monde surveille tout le monde. Voilà. Et tout le monde sait tout sur tout le monde. Du coup, si, par exemple, toi, t'as ta sœur qui va fréquenter un jeune, t'as un tel qui va dire « Tiens, j'ai vu ta sœur avec un tel. » Et en fait, t'as le poids de la communauté qui est là. Ce qui a changé aussi beaucoup, c'est l'individualisme. Les gens sont tellement pris dans des préoccupations quotidiennes, des familles qui travaillent non-stop, des parents, et du coup, qui prennent jamais du temps avec leurs enfants. Il y a des parents qui sont tellement dans le quotidien qu'en fait, ils passent jamais de bons moments avec leurs enfants. C'est soit de la réprimande, soit des tâches à faire. Mais un moment de détente avec ses enfants, non. Et après, il y a quelque chose qui a changé aussi, c'est le rapport des plus grands avec les plus jeunes. Nous, il y a des années de ça, il y avait quand même une bienveillance des plus grands, qu'on pouvait appeler grands frères, qui n'utilisait pas les petits. Aujourd'hui, un peu partout, tu vois que les petits sont utilisés par les plus grands. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on remarque un peu partout. Et il y a aussi le manque de, pas de solidarité, mais de structures ou d'associations qui se mettent en place. Par exemple, les amicales de locataires, il y en a de moins en moins. Alors que ça servait à la défense des locataires, mais aussi elles animaient des choses sur les quartiers. Il y avait de l'éducation. L'éducation populaire que nous, on a connue, par exemple, il y en a beaucoup moins. Tu as eu les syndicats aussi. Il y a des syndicats qui étaient implantés sur des quartiers, des banlieues, où ils avaient une forte emprise et où ils mettaient en place des choses, mais voilà, des super pour les vacances. Ils faisaient des animations de quartier,
Des voyages,
ils organisaient même des tout simplement des fêtes de quartier, ouais. Tu sais, avec des courses en sac, des olympiades, des choses comme ça, des bals populaires avec barbecue, des choses comme ça. Ce que font encore un petit peu les écoles primaires en fin d'année.
Ouais, c'est ça.
Et ben il y avait un lien, mais il y avait un lien fort qui était au quotidien. Et après il y a aussi l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. C'est une nouvelle dimension. C'est bien parce que je trouve qu'ils développent des compétences, mais ça les rend des fois un peu difficiles à capter physiquement. Ils vont être sur les réseaux, ils vont avoir l'impression d'être en lien avec plein de monde, mais finalement, physiquement, après, dehors, ils sont tout seuls.
C'est quoi le proverbe ?
L'adage, c'est qu'il faut tout un village pour élever un enfant.
C'est ça.
Ouais.
Et aujourd'hui, voilà, c'est quoi le village aujourd'hui ?
Eh bien, le village aujourd'hui, moi je dirais que par exemple, nous, dans notre secteur, le village, c'est tous les professionnels, mais aussi la famille, qui vont graviter autour de l'enfant. Tu vois, nous, on peut pas travailler seul. Par exemple, nous, on a des situations où tu as des jeunes qui ont multiples problématiques. Ça peut être de la psychiatrie, ça peut être de l'hébergement, de l'emploi, des papiers. Et en fait, ils ont plusieurs repères. C'est-à-dire que dans leur parcours quotidien, s'il a rendez-vous à la mission locale, et ben après son rendez-vous, il va passer nous voir. Et ça fait partie de son parcours. C'est-à-dire qu'il y a un réseau qui est constitué autour de lui de professionnels qui vont baliser un petit peu son parcours et que vous lui permettre de grandir dans un environnement sécurisé, mais qui va en même temps essayer de le rendre le plus autonome possible. Il faudrait que l'école sorte et aille sur les quartiers où vivent ses enfants. Tu vois, il faudrait faire la démarche inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de ramener les parents à l'école, il faudrait déjà que les enseignants aillent à la rencontre des parents là où ils vivent. Pour se réconcilier, parce que entre ceux qui parlent pas la langue, entre ceux qui ont deux boulots, et entre ceux qui sont fâchés avec l'école parce qu'ils ont une scolarité difficile, c'est-à-dire quand tu as été fâché avec l'école et que tu reçois un mot sur le carnet ou sur Pronote ou le NT, là, eh ben, t'as l'impression qu'on te parle de toi et parle de ton gamin. Du coup, c'est difficile d'y aller. Par contre, si les enseignants faisaient la démarche d'aller sur les quartiers, de faire des choses, alors peut-être passer par des choses un peu ludiques, conviviales au départ. Et puis après, une fois que les liens sont créés, une fois que, on va dire, cette méfiance, elle est tombée, peut-être que là, ouais, les gens viendront plus facilement dans les écoles.
C'est la voix de Mohamed. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est Stéphane qui lui a parlé. Moi, je l'imagine. Mohamed dirige l'association Espoir. Lui et une équipe d'éducateurs spécialisés, ils vont à la rencontre des jeunes qui traînent au bas des blocs tous les jours. Ils leur proposent de l'aide dans leur démarche. Ils leur proposent de discuter un peu, savoir comment ça va. En quoi consiste leur travail ? À parler. À les faire parler. À leur donner de l'espoir. De tous les endroits où j'ai été, je suis jamais parti, non. De tous les endroits où j'ai été, je suis parti très vite. Parce que je n'ai pas eu envie de croupir à mon âge dans une étroite et stupide vie de bureau. Même si les bureaux en question étaient de l'avis de tout le monde ce qu'il y avait de plus relevé dans le genre. Des bureaux de banque, par exemple. Cela dit, on ne m'a jamais chassé de nulle part. C'est toujours moi qui suis parti, par pur plaisir de partir. Avant de commencer l'atelier, j'ai lu Les enfants tanneurs de Robert Walser. Moi aussi, j'ai souvent voulu partir très vite. Souvent, je l'ai fait. Souvent, j'ai abandonné des chemins faciles, la promesse du succès. Ça m'aurait tué si j'étais resté. Est-ce que c'était une fausse excuse ?
J'ai eu un premier aperçu du métier quand j'étais enfant, parce que je voyais les éducateurs dans le quartier, depuis ma fenêtre. Je les voyais intervenir à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire ? Et finalement, m'engager dans un métier du social, c'était un bon moyen de venir participer, apporter ma pierre à cette construction de la société. Moi, je ne suis pas enseignante. Je ne viens pas leur apprendre un savoir concret, mais après, c'est une ouverture d'esprit qu'on essaye de leur apporter, de découvrir peut-être des activités qu'ils ne connaissent pas ou alors des... Et après, c'est parfois c'est à travers les échanges, on va souvent chercher, on va questionner, on va chercher à creuser toujours plus. Le but, c'est pas d'être intrusif, c'est même pas nous, à la limite, c'est pas forcément que le jeune il nous donne la réponse, c'est que lui, il la trouve pour lui-même et qu'il puisse l'utiliser comme une ressource. Il y a ce qu'on appelle la maïeutique, qui est une méthode de questionnement, de dire on donne pas une réponse toute faite qui serait assénée comme une vérité absolue. Les vérités, on ne les connaît pas nous-mêmes, mais au moins amener la personne à réfléchir par elle-même et à trouver sa solution, celle qui lui conviendra le mieux. La maïeutique, ça signifie faire accoucher les esprits. Donc c'est le principe, c'est de dire qu'on ne donne pas de réponse, on re-questionne. Et en fait, à travers plein de petites questions, on amène à une réflexion pour que la personne elle trouve sa propre réponse, ou ses propres questions peut-être parfois aussi. Quand quelque chose nous est imposé, et bah ça prend moins bien que si c'est notre choix. Si on choisit d'aller chercher une information, on la retiendra mieux que si elle nous est assénée alors qu'on la trouve sans intérêt. La dimension obligatoire, la question du sens. Ce que j'apprends, ça ne m'intéresse pas, ça ne va rien m'apporter, ça ne sera pas utile par la suite. On a besoin pour vivre ensemble d'avoir des connaissances communes, quelque chose qui nous réunisse et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi qu'il y ait un tronc commun par le biais de l'école, sans compter que c'est aussi un lieu de socialisation, c'est un lieu d'échange. À l'école, il n'y a pas que les cours. On s'adresse à des jeunes en plus qui sont pour beaucoup sortis à ce moment-là de l'obligation scolaire et du coup qui en ont profité pour sortir du système. C'est vrai que nous, quand on parlait des décrocheurs, on s'adressait beaucoup à des jeunes qui étaient encore soumis à l'obligation scolaire et qui respectaient pas cette obligation. Mais en fait, une fois qu'ils ont 16 ans, il y en a plein qui arrêtent.
Enough of us, beats. sourire un peu l'ancien. Ouais, je pose ton téléphone et me raconte pas tes anecdotes. J'ai préféré stopper l'école en full under, aucun amour. Je veux des sous à la mort et je veux aussi que ma mère soit fière de son seul fils. Faut que j'élabore un plan pour quitter tout. C'est soit je la joue en mec connaître, ça reste ou tout. Ou soit je la joue en mode rat pi gros. Quelques pensées macabres, mais ça sera quitte ou double. Je crois que c'est le sixième terre que j'allume. Je suis qu'un humain, pas un voyou qui veut des thunes, montre le volume. Des grandes salopes, y'en a plus d'une. Quand j'ai une galère, moi j'ai quoi faire, gros, je suis pas dupe, je suis dans la stupe. J'ai déjà essayé de la quitter, mais le haram m'a tiré, je continuerai tant que je serai à quitter. Aucun diplôme, j'ai tout en tête et sont bonnes les idées. Y'a rien à savoir, juste du temps et je vais tout fructifier. Je sais qui a fait, j'ai brûlé mes défauts, on a grandi peu à s'agir. En moi, je sais faire la part des choses, tout part de rien. On nous a jetés dans une fosse, mes escaliers qui sentent la pisse, sa mère va te cramer par la crasse et tu sais quoi. Au moins je sais qui sont les vrais, tout le reste m'en tape tant que j'ai mes talents, en rendant joyeux petit Ethan et tu sais toi. C'est mieux d'écouter tes rampas quand t'étais encore petit pisseux, c'est eux seuls pour ton rampé.
J'écoute le rap de Hamza que Stéphane a enregistré dans le quartier. Je veux rentrer. Je suis fatigué. J'ai eu la chance, une chance inouïe, de grandir avec mes deux parents, d'ouvrir la fenêtre et d'entendre les oiseaux chanter, de voir les arbres fleurir, le paysage changer 4 fois dans l'année, de pouvoir être seul dans ma chambre ou d'aller marcher dans la forêt, de pas me poser de questions d'argent jusqu'à mes 18 ans, d'avoir une enfance préservée. Un horizon ouvert. Je me souviens que quand j'étais étudiant, j'ai eu une conversation avec un ami qui avait grandi dans un quartier périphérique de la ville, dans une tour. Une de mes premières questions, ça a été « Comment tu grandis quand t'as jamais vu la ligne d'horizon ?» Il a dû trouver ma question stupide. Il a ri.
Différentes saisons et températures. S'adapter est une torture. Faites-moi sortir et essayer de nouvelles choses. Je veux m'épanouir comme une rose. Balade en scooter à travers la nuit, comme dans les films où l'on voit Paris. Grands parcs, musées et trains, ils sont bruyants tous ces engins. Bientôt, la mer te manquera. Les montagnes, le ciel, ta famille, les repas. La chaleur du soleil, la puissance des cyclones, et tes amis qui te font rire comme personne. Il ne te manque pas qu'une maison, mais toute une vie et ton horizon. Tu as perdu un sentiment familier, car ici, l'hiver, tout est gelé. Cherche des repères parmi tes amis, mais il y a les cours, déplacements et changements, de la fumée dans l'air, de nombreux passants qui courent à droite à gauche sans perdre de temps. Tant que je finis esselé, avec mon chat, un livre et du thé, je bois ma tasse et traverse l'hiver jusqu'à ce que le ciel ne soit plus couvert.
Robert Walser a grandi en Suisse. Il écrivait en marchant dans la forêt. Il se réveillait tous les jours avec une vue sur les montagnes, les sommets. Sur la 4e de couverture des Enfants Tanner, il est écrit que c'est le chef-d'œuvre de Robert Walser. Je suis pas sûr que Robert aurait été d'accord, qu'il avait vraiment envie d'écrire un chef-d'œuvre. Les Enfants Tanner, c'est l'histoire de Simon, le dernier d'une famille de 5 enfants. Il passe son temps à chercher du boulot. Il va d'emploi en emploi, d'endroit en endroit, en rêvant d'autre chose.
J'aime créer, j'aime toucher à tout, tous les domaines en fait. J'ai touché à la musique, j'ai fait du violon pendant 7 ans, j'ai touché au chant, j'étais dans un choral de l'église, un choral de mon école de musique, etc. J'ai touché au sport, j'ai touché principalement au dessin et tout ce qui est création. Et depuis petite en fait, je fais du jardinage avec mes grands-parents. Et les plantes, la nature, les fruits, les arbres fruitiers, on avait au moins une trentaine d'arbres fruitiers sur leur terrain. Donc c'est cet amour, cette passion de retrouver quelque chose qu'on connaît dans une école, en quelque sorte, étudier quelque chose qui nous plaît, en fait, une matière qui nous plaît. J'aime dessiner, j'aime les plantes, j'aime récolter des plantes, faire sécher des feuilles, etc. Donc c'est vraiment retrouver cet amour de chaque petite chose que j'ai aimée dans ma vie, dans des études.
Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un pour entretenir son jardin, justement.
Pousser, faire pousser,
et laisser pousser. Dans le jardin de mes grands-parents, par exemple, il y a beaucoup d'arbres qui ont été apportés au jardin. Il y a des arbres endémiques, les manguiers, les pieds de laitchi. Enfin, non, des pieds de laitchi, mais les arbres à laitchi. mais il y a des cerisiers qui ont été ramenés, cerisiers de Madagascar, des cerises de Chine, je crois, du Japon. Il y a des mûriers qui ont été apportés, il y a des caramboles, des fruits en forme d'étoile. Donc c'est vraiment trouver un endroit qui plaît à la plante. C'est vraiment se renseigner, en fait, sur... c'est un être vivant, c'est... Qu'est-ce que t'aimerais ? Est-ce que tu t'as soif ? Est-ce que t'as faim ? T'aimes plutôt le soleil ? Est-ce que tu fonctionnes avec cette plante ? C'est pour ça qu'en fait, par exemple, à La Réunion, on a autant de mangues avec des parfums différents, parce que les plantes s'adaptent à ce qu'elles ont autour d'elles. On a des mangues qui ont un petit arrière-goût un peu de café, parce qu'il y avait les caféiers à côté. On a les bananiers à certains endroits qui sont plus sucrés, à certains endroits qui sont plus parfumés ou plus fleuris, un petit goût de vanille. C'est, ça dépend de là où les arbres poussent. C'est vraiment où est-ce que tu as envie de pousser.
À la fin du livre, une femme dit à Simon
et, un peu aussi s'asseoir et
vous vous mettez toujours trop bas et les autres trop haut. Alors quoi ? Est-ce qu'il faut commencer par prendre de la hauteur ? Ou simplement s'inventer un nouvel horizon ?
En fait, c'était par rapport au fait de venir et de pousser et de voir qu'est-ce qui fonctionne, en fait. C'est devenu un peu ma signature dans mes projets. C'est que dans tous les projets que j'ai faits dans mon école de paysagisme, je dédiais un espace dans le jardin ou dans l'aménagement où j'allais planter des plantes qui étaient partout sur l'espace. Mais je les laissais pousser. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'entretien, il n'y avait pas de « Oh, faut mettre plutôt des buissons à cet endroit-là, des arbrisseaux à cet endroit-là, des arbres un peu plus grands là. Celui-ci prend 10 ans pour pousser, il va pouvoir faire cette taille. » C'est vraiment, je lance des graines et je regarde ce qui se passe. Et l'aménagement se crée tout seul, en fait. C'est un espace libre où on voit qu'est-ce qui fonctionne. Et ça m'a un peu fait penser à mon expérience où je me suis un peu lancée sur Paris et je vois qu'est-ce qui fonctionne. C'est vraiment ma signature dans mes projets.